Le poison est à l'intérieur. Retour ce matin sur l'attentat terroriste de jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. C'est avec vous, Daniel Cabanis. Bonjour.
Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. En fait, Michaël Harpon a créé une brutale et monstrueuse surprise. Ce fonctionnaire de la préfecture de police de Paris a attaqué à l'arme blanche quatre de ses collègues avec particulièrement de cruauté. Une victime a été égorgée. Et passé la première réaction de stupeur et d'horreur, c'est le temps des questions.
Oui, comment et pourquoi ?
Voilà, comment, pourquoi ? La préfecture de Paris, bien entendu, est sécurisée. Et pourtant, on a pu y introduire des couteaux. Pas n'importe lesquels, des couteaux de céramique que les détecteurs ordinaires ne détectent pas. On est souvent en retard technologique d'un combat. Ce n'est pas la première fois. Un couteau semblable a passé récemment les contrôles aéroportuaires. Qui contrôle-t-on ? Tout le monde ou pas ? On est au poste, mais on se connaît. Alors on devient transparent, ce qui ne veut pas dire inexistant.
Alors quelles conséquences on peut déjà en tirer, Daniel ?
Alors je me garderai bien de tirer toutes les conséquences dont
maintenant
je suis parfaitement incapable. Mais il y a quelques points qui me paraissent quand même importants. Ce fait divers dramatique met en évidence la fragilité de tous les systèmes de surveillance. Où surveillants et surveillés sont pour partie en tout cas membres de la même entité. Et pour les contrôleurs, le mal, le danger ne peuvent venir que de l'extérieur. Une fois de plus, on constate la difficulté d'évaluer le danger et surtout de prévenir sa matérialisation.
Surveillant et surveillé, membres de la même entité, est-ce que vous pouvez préciser ?
Oui, je veux dire par là, lorsque celui qui est susceptible de commettre l'infraction, de quelque ordre que ce soit, pas seulement du terrorisme, fait partie de la communauté sur laquelle s'exerce la surveillance.
On pense alors aussi aux aéroports.
Absolument. Absolument.
Alors ça conduit à la deuxième question, Daniel, celle du pourquoi.
Alors, au titre de la liberté de conscience, une conversion religieuse, qu'elle coïncide ou non avec l'abandon d'une autre foi, ne pose a priori aucun problème à la société, dès lors qu'il n'y a aucune obligation dans cette société d'adhérer à quelque culte que ce soit. Les seules difficultés qui peuvent surgir sont éventuellement d'ordre privé. Ce n'est malheureusement pas l'hypothèse que l'on puisse retenir dans le récent attentat. L'homme qui a tué s'était converti, a paru longtemps paisible, ne suscitant aucune inquiétude, au point d'endormir la vigilance de ceux qui le côtoyaient et qui ont sincèrement cru qu'il gérait, minimisant les signaux de danger. Il ne s'agit pas de fustiger qui que ce soit, laissons les politiques s'étriper sur le sujet, ils ne s'en privent d'ailleurs pas.
Démissionner ou non, Castaner, c'est la question du jour aujourd'hui.
Oui, c'est la question du jour, il ne s'agit pas de défendre ou d'attaquer le ministre, mais ça ne résout rien sur le fond. C'est un problème symbolique, alors on entre dans le symbole ou non. Mais cette affaire donne à réfléchir car cet exemple particulier n'est peut-être pas exceptionnel. L'histoire nous apprend qu'il y a plusieurs types d'affrontements, mais que lorsqu'ils durent à côté des conflits classiques, se déploient d'autres formes de guerre. Et c'est dans ce contexte que se développent les fanatismes. Ce sont les doctrinaires les plus exaltés qui fabriquent les plus dangereux des combattants. La religion, comme les doctrines politiques, peuvent être l'instrument de cette guerre sournoise qui vise souvent la destruction complète du camp ennemi.
Vous parlez de guerre, hein, les mots sont forts tout de même.
Oui, il s'agit bien d'une guerre parce qu'il y a une dimension totalitaire. C'est où, et si on est dans un camp, l'autre doit être absolument annihilé.
Qui fait la guerre à qui, là ?
En l'occurrence, c'est Daesh, ou ce qui reste de l'État islamique, son identification n'est pas si simple que ça, contre tous les symboles de l'autorité occidentale. Encore que, dans le cas particulier, on puisse se demander si des motivations privées n'ont pas été introduites pour récupérer autre chose en réalité. Mais peu importe, ça reste quand même dans un système qui est très général. Alors, la tactique, c'est de chercher des maillons faibles de la société que l'on attire par des promesses de monde meilleur, à moins que ce soit carrément de paradis. Les recrutés sont fidélisés par le secret et plus ou moins consciemment, ils deviennent des soldats dormants dont la motivation est encouragée pour qu'ils passent à l'acte au bon moment. Les mouvances terroristes, toutes, sont passées maîtresses dans cette tactique, reprenant consciemment ou non les méthodes de tous les systèmes totalitaires. L'ennemi est présent aux côtés de ceux qu'ils veulent détruire et qui ne se doutent durablement de rien. Ils ne veulent pas voir une menace qu'ils comprennent d'autant moins qu'elle est irrationnelle pour eux, surtout si eux-mêmes sont étrangers à tout fanatisme.
Alors on fait quoi, Daniel Cabanis ?
Alors, Encore, s'il y avait une solution miracle, je suppose que ça se saurait. Mais quelques points méritent peut-être d'être évoqués, sans naïveté. On se laisse manipuler si on se sent faible et mal considéré. Cela se produira d'autant moins qu'on a une réelle estime de soi. Avant de s'enfoncer dans la délinquance, souvent le lit de la radicalisation, les jeunes pourraient ne pas y tomber si on les aide à construire un projet autre que dealer et se faire attraper avec à la clé le risque d'être enrôlé après un séjour en prison. À partir de là, on peut être très ferme dans les sanctions car il n'y a plus la place pour la moindre excuse, souvent trouvée au nom, il est vrai, d'un politiquement correct un peu douteux. Il faut que la société soit attentive et sans sombrer dans un quelconque système à la chinoise de délation dont on sait bien l'horreur. Il pourrait y avoir un système d'alerte générale, soft, et surtout pas organisé contre, mais pour le respect du droit et pour une société de liberté.
Et ben voilà, comment rester positif en toutes circonstances. Merci beaucoup Daniel Cabanis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous politique.